Je me suis demandé ce que j'allais partager avec vous ce matin. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand sujet que l'amour. Ça fait un peu cliché de dire ça, et pourtant c'est la vérité. Ça fait un mois à peu près que j'ai arrêté de travailler. Le projet sur lequel je travaillais était terminé. Et donc je suis entre deux projets. Donc normalement ça devrait reprendre dans quelques mois. En attendant, je suis à la maison. Et il se trouve que c'est une bonne chose parce que ça me permet de pouvoir m'occuper des filles quand je ne suis pas grippé. Donc j'amène mes filles le matin à l'école et il y a un moment que j'apprécie tout particulièrement, c'est celui où je reprends la voiture et je repars, non pas parce que j'ai laissé mes filles, mais parce que je vois ma petite, elle est au portail comme ça et puis elle me fait « coucou, coucou papa ». Et alors moi je suis un peu embêté parce qu'il faut que je gère la pédale, le levier de vitesse. J'ai un tournant à faire pour reprendre la route. J'ai un policier qui me dit « circuler, circuler ». Et en même temps, je dois dire au revoir à ma fille. Mais cette preuve d'amour, pour moi, c'est juste énorme. Et alors que j'enclenche la vitesse, que je commence à tourner, je veux faire un dernier au revoir à ma fille. Et là, je la vois qui disparaît au coin, comme ça. Je vois juste plus que sa queue de cheval qui disparaît, comme ça. Et là, j'ai ce pincement au cœur. Vous savez, ça y est, elle est déjà partie à ses activités. Et je m'engage dans la route, et là, quelle est ma surprise? Je vois qu'il y a un deuxième portail, sur la gauche, comme ça. Je suis dans une zone à 30 km/h, les gens derrière moi ont intérêt à ralentir, parce que moi, je ralentis pour dire au revoir à ma fille une seconde fois. Et là, je me dis, Seigneur, mais est-ce que tu n'es pas comme ça avec nous? Il est là, dans l'attente, vous savez que, d'un signe d'amour de notre part, juste un coucou de loin, comme ça. Et moi, qui suis un homme pécheur, dans cette nature qui est finie et qui pourtant me réjouit de cette marque d'amour que m'apporte ma fille, à combien plus forte raison notre Seigneur lorsque nous lui faisons coucou de loin depuis là où nous sommes? À combien plus forte raison lorsque nous désirons être dans sa présence, lorsque nous avons envie d'être avec lui? S'il pouvait, il resterait avec nous tout le temps, mais en fait, ça dépend de nous. Et pourquoi sommes-nous là ce matin? Nous avons certainement envie d'exprimer notre amour au Seigneur. Ou peut-être que nous voudrions mieux connaître cet amour. Peut-être que nous ne le connaissons pas comme nous aimerions le connaître. Peut-être que nous croyons le connaître alors qu'en fait, nous ne le connaissons pas. Peut-être avons-nous connu cet amour et avons-nous lâché la main. Et alors nous sommes, vous savez, comme dans ce livre, ce merveilleux livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 3, la bien-aimée dit la chose suivante. Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Parfois, j'ai l'impression d'être comme cette jeune femme qui a lâché la main de son bien-aimé, où elle a hésité, vous savez, il se trouvait à la porte, elle a hésité pour lui ouvrir, et le temps qu'elle ouvre, il était déjà parti. Et alors après, on passe du temps à chercher, parce qu'il se fait désirer, et il sait se faire désirer. Et lorsqu'on le trouve, on ne veut plus le lâcher. Il y a un texte qui est bien connu, vous savez, il dit, non, pas encore pour l'instant, il dit, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire en mon nom? Est-ce que ça veut dire compris dans le nom de Jésus? Vous avez remarqué que ce verset commence par un mot de liaison, car ou en effet. En fait, il est relié au verset d'avant, qui dit la chose suivante. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, Cela sera accordé, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Et ce matin, mon désir, le désir de mon cœur, c'est que nous puissions rencontrer l'amour de notre Seigneur. Et s'il y a parmi nous deux ou trois qui désirent cette même chose, Jésus-Christ lui-même nous dit que cela nous sera accordé. Alors Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes devant toi, désireux de mieux te connaître, désireux d'expérimenter cet amour que tu offres sans réserve et sans limite à tous ceux qui se confient en toi. Et nous te prions ce matin que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation, qui nous fasse connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nos yeux puissent être débordants de joie de te voir tel que tu es, resplendissant dans ta gloire, vivant au siècle des siècles. Seigneur, remplis-nous de ton amour ce matin par ton esprit, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que nous méditons la parole du Seigneur ? Alors la méditation chrétienne n'a rien à voir avec la méditation orientale ou de tous les types de méditations qu'on peut rencontrer, type yoga, vous savez, où on essaye de faire un ou tout avec l'univers, on se concentre sur nous-mêmes, on se focalise sur nous-mêmes. Certaines pratiques, comme le yoga d'ailleurs, à l'origine, hein, c'est vous vous identifiez à une divinité spirituelle et vous devenez un avec elle en fait. Dans la méditation chrétienne, il n'est pas du tout question de cela. En fait, nous cherchons à comprendre qui est le Seigneur. Et pour cela, nous étudions la parole qu'il nous a donnée, parole dont nous croyons qu'elle est inspirée par son esprit qu'il nous a donné vivifie et claire cette parole, et cette connaissance que nous avons du Seigneur, transformée par le Saint-Esprit, vient se muer en reconnaissance et en amour pour lui. C'est ça le but de la méditation. Et si nous méditons la parole de Dieu, c'est parce que son amour nous y est révélé par la foi. Et je suis sûr que nombreux vous êtes ce matin qui pourriez témoigner d'un ou de plusieurs versets de la parole qui vous ont touché particulièrement à un moment donné de votre vie. Jean Rodier nous a partagé un verset il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était il y a 2 semaines. Il me semble que c'était 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il me semble que c'était celui-là. Je me rappelle quand le Seigneur m'a touché. C'était Romains 10, verset 8. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Je me rappelle quand le Seigneur m'a touché, quand son amour s'est déversé dans mon cœur. Et je suis sûr que vous pourriez être nombreux à témoigner ce matin de la même chose qu'il a fait pour vous, votre passage des Écritures. Certains textes sont clairs et d'autres sont plus mystérieux. Et parfois, dans l'Ancien Testament, on trouve une pépite. Un texte qui vient éclairer un autre texte. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce matin. Est-ce que vous avez déjà été frustré? Vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez Jésus à la croix et vous êtes frustré par son silence. Vous aimeriez savoir ce qui se passe dans sa tête. Vous aimeriez comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et puis tout d'un coup, vous lisez le psaume 22. Et alors là, c'est la révélation. Vous vous rendez compte que c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Il est en train de parler de ce qu'il est en train de vivre, de ses souffrances. Et puis vous lisez le psaume 102. Et là, c'est non seulement Jésus-Christ qui parle, mais le Père qui lui parle aussi, et le Saint-Esprit qui parle également. On a dans le psaume 102 la Trinité même présente à la croix. On le sait grâce à l'Épître aux Hébreux particulièrement. J'aimerais partager une de ces pépites qu'on a découvertes dans notre culte de famille. Il est certes excellent de méditer sur l'œuvre de Christ et sur sa vie, sur son humilité, son obéissance, sur son amour, sur sa compassion, sur sa miséricorde, sur sa patience. Mais à l'heure la plus sombre de sa vie, celle pour laquelle il était précisément venu sur cette terre, où se trouvait son Père? Je vous propose un premier texte qui va s'afficher à l'écran. Il s'agit de Luc 22, versets 41 à 44. On parle de Jésus-Christ. Il s'éloigna d'eux, donc de ses disciples, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Premier texte. On ne voit pas de réponse directe du Père ici. Nous voyons Jésus-Christ seul. Un deuxième texte que je voudrais vous partager, c'est Luc 23. C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Ailleurs dans la parole, nous lisons ces terribles paroles qu'il a prononcées. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on comprend qu'il y a de quoi être choqué face au message de la croix. Dieu, le Père, réclame justice. Et il se trouve devant son Fils, en train d'agoniser sur cette croix, agoniser des souffrances physiques qui lui ont été infligées, mais également des souffrances morales, psychologiques, intellectuelles, psychiques, spirituelles, que nécessite la condamnation de nos actes. Un Père de glace, réclamant sang et justice. Vraiment. Pourtant, la parole ne dit-elle pas que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes? Où était Dieu alors, ce Père aimant, et que faisait-il aux heures les plus sombres de Christ sur la terre? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Cependant, alors que nous faisions un petit culte de famille, on lisait une histoire de l'Ancien Testament avec les filles, on a eu un éclairage sur ces textes qui m'a paru tellement bon, précieux, que je voudrais le partager avec vous ce matin. Mais j'aimerais donner juste un petit avertissement sur les limites de ces images et de ces textes qu'on peut avoir. Et les limites, on les trouve typiquement dans les paraboles que Jésus-Christ nous donne. Vous savez, quand par exemple, il nous donne une parabole pour prier sans jamais se lasser, sans jamais abandonner, et il nous donne cette parabole, vous savez, du juge inique et de la veuve qui vient le voir et le voir encore jusqu'à ce qu'il lui fasse justice, mais ce juge est égoïste, ce juge ne pense qu'à lui-même, et finalement il se dit, bon, ben, pour me débarrasser de cette femme, je vais lui faire justice. Et cette parabole nous est donnée afin de nous encourager à prier et à supplier notre Seigneur. Mais elle ne dit pas pour autant que notre Seigneur est un juge inique. Elle ne dit pas que notre Seigneur est une personne qui ne pense qu'à lui-même et qui attend qu'on vienne supplier à sa porte jusqu'à ce que finalement il se décide enfin, parce qu'on lui a cassé les pieds, à nous répondre. Évidemment que non. Donc, nous nous voici dans l'Ancien Testament. Nous sommes environ entre moins 500 et moins 600 avant la venue de Jésus-Christ en tant qu'homme sur terre. Le peuple d'Israël se trouve en exil à Babylone. Darius, le Mède, vient de prendre le pouvoir à 62 ans et il se trouve parmi ce peuple juif qui est en exil, un homme, du nom de Daniel. C'est une histoire qui est assez bien connue. Hein. Darius décide d'établir 120 gouverneurs sur son pays, Babylonie, et puis trois responsables sur ces gouverneurs, dont Daniel. Et puis finalement, Daniel se révèle si intelligent, si sage, si parfait dans toutes ses voies, qu'il décide de le mettre à la tête, ou qu'il envisage de le mettre à la tête de tout l'Empire. Et là, ça fait grincer des dents. Et donc, les autres gouverneurs décident de lui tendre un piège pour le faire tomber, parce qu'ils sont jaloux. Malheureusement, ils ne trouvent aucune faute en Daniel. Et finalement, ils se disent, eh ben, on va le faire chuter grâce à son Dieu. Et ils vont voir Darius le Mède, le roi, ils le flattent un petit peu, et puis ils lui disent, on aimerait que tu édites un décret, une loi qui sera irrévocable, c'est-à-dire que personne ne pourra la contester, durant laquelle pendant 30 jours, quiconque priera un autre Dieu ou un autre homme que toi sera jeté dans la fosse au lion. Et Darius, un petit peu crédule, accepte. Cette loi est signée. Et alors c'est intéressant, si vous lisez ce texte, vous le trouverez en Daniel 6, on ne va pas le lire en entier, mais vous les voyez se précipiter pour aller chez Daniel et voir s'il va prier son Dieu, vous voyez. Ce que Daniel ne manque pas de faire. Alors ils se précipitent à nouveau chez le roi et lui disent, n'as-tu pas, ô roi, édité une loi disant que voilà, pendant 30 jours, quiconque prierait un autre Dieu ou un autre homme que toi serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répond, oui, bien sûr, cette loi est aussi sûre et irrévocable que la loi des Mèdes et des Perses. Ô roi, nous avons trouvé quelqu'un. Cet homme s'appelle Daniel et il a brisé cette loi. Et nous prenons notre texte à ce moment-là. Le roi, Darius, fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes, donc ceux que nous venons de décrire, insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui, ça devait être une de ses habitudes, et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Est-ce que cette histoire vous a rappelé quelqu'un ? Quelqu'un qui était innocent et qui a été livré. J'aimerais que vous puissiez regarder l'attitude du roi ici. Le roi fut très attristé quand il entendit cela et il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Voyez l'attitude d'un roi païen envers un juif esclave qui n'était même pas son propre fils, ni même de son propre sang, ni de sa propre famille, ni de sa propre religion. Et voyez l'amour qu'il a pour lui. Et Dieu le Père, aurait-il éprouvé moins d'amour pour son fils unique ? Moi, quand je vois l'attitude de ce roi ici, et que je me souviens de Jésus à Gethsémané, face à ce qu'il attendait, je ne peux m'imaginer le Père. Je ne peux imaginer l'amour de Dieu le Père pour son Fils unique, restant de marbre, face aux supplications de son Fils qui transpire sang et eau devant son Père. Dieu le Père a-t-il moins fait que ce roi pour son propre fils? Il a tout imaginé, il a tout tenté. Nous savons que Jésus-Christ n'était pas le plan B, n'est-ce pas? Jésus-Christ est l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Avant même que l'humanité soit créée, il en était ainsi. Dieu avait tout imaginé. Et nous savons que le plan de donner son Fils pour l'humanité venait de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Versets 16 à 18. Nous voyons le roi qui appose l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Sous le coup de l'orgueil et de la flatterie, le roi Darius a édicté une loi qui, pensant qu'elle était bonne, en fait a condamné un innocent. Et nous avons là l'une de ces fameuses limites des images dont nous parlons. Dieu n'est pas pris au piège par sa loi. Il n'est pas prisonnier de la loi, mais il est auteur de la loi. La loi est le reflet vivant, bien que partiel, de toute sa perfection. Elle est l'expression de son être moral, entier, cohérent et logique et conséquent. Ce qui est dû à la loi, en fait, est dû à Dieu, car la loi est Dieu. C'est pourquoi ce qui est dû à la loi est en dernier ressort dû à Dieu, puisqu'elle exprime qui il est. Et Jésus-Christ a satisfait chaque exigence de cette loi. Ce qu'on dit, les exigences actives et les exigences passives. Les exigences actives en menant une vie telle que nous ne pourrions jamais la mener, satisfaisant chaque condition de cette loi d'amour, et passives dans le sens où il a subi à notre place notre condamnation pour avoir violé la loi. Jésus-Christ est donc l'accomplissement parfait de la loi. Au verset 19, nous voyons le roi qui se rend ensuite dans son palais. Il passe la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Je n'affirme pas que Dieu a besoin de dormir. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Je n'affirme pas non plus qu'il y a des danseuses dans le ciel. Mais j'aimerais que nous puissions voir l'attitude de ce roi. Alors que Daniel est dans la fosse au lion, il a passé la nuit dans son palais, sans manger, sans faire venir de danseuses, sans parvenir à trouver le sommeil. Il était tourmenté. Ce qu'a vécu le Père lorsque le Christ était sur la croix, nous ne le saurons jamais. Mais l'attitude de ce roi me porte à soupçonner l'amour du Père pour son Fils alors qu'il se trouvait sur cette croix. Certainement, toutes ses pensées étaient tournées vers lui, vers la perfection de son Fils, la perfection de son obéissance, la perfection de son amour, la perfection de son humilité et vers sa gloire future, n'est-ce pas ? Versets 20 à 21, le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et il se précipite à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste et lui demande « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Il ne le sait pas encore. Le roi ne pense qu'à une chose, revoir Daniel vivant. Toutes ses pensées sont tournées vers lui. A-t-il survécu ? Est-il blessé ? Est-il en vie ? Pour Jésus-Christ, les choses ont été différentes, nous le savons. Il est bien mort. Et il le fallait pour que Daniel puisse vivre, pour que tu puisses vivre, pour que je puisse vivre. Il fallait que quelqu'un meure. Et si un ange ou un homme avait appelé Jésus-Christ au jour où il a été mis au tombeau, il n'y aurait pas eu de réponse. Et si un ange ou un homme avait appelé Jésus-Christ au deuxième jour, le lendemain, il n'y aurait pas eu de réponse. Et si un ange ou un homme avait appelé Jésus-Christ le troisième jour. L'obscurité pouvait-elle retenir Jésus-Christ? Le froid pouvait-il retenir Jésus-Christ? La poussière pouvait-elle retenir Jésus-Christ? Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la mort? Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Jésus-Christ n'était plus là. Et pourquoi n'était-il plus là? Les versets 22 à 24 nous le précisent. Le roi fut tout heureux. Verset 23, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Jésus-Christ était innocent, c'est pourquoi il a vaincu la mort. La mort ne pouvait le retenir. Et il nous rend vainqueurs avec lui. Merveilleuse sagesse insondable de Dieu. Une telle expression d'amour de la part du Père envers le Fils. Et elle demande de notre part une réponse. Et c'est pour cette raison que j'ai gardé le dernier verset qui est un petit peu compliqué à lire. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Il semble qu'il s'agisse là de coutumes de l'époque. Le fait que ce soit écrit dans la Bible ne signifie pas que Dieu approuve ce geste. Cependant, aujourd'hui encore, je pense qu'il peut s'appliquer à nous, parce que notre sort pourrait ne pas être plus enviable que celui de ces personnes-là. Dieu fait preuve de patience envers nous, ne souhaitant qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Et il fait preuve de patience, d'énormément de patience, mais sa patience arrive à terme. Un jour, elle sera achevée. Et ce serait un manque d'amour pour moi, en fait, de ne pas vous avertir, si vous n'appartenez pas au Seigneur aujourd'hui, des conséquences immortelles et éternelles que cela pourrait vous entraîner. Il nous a offert une solution, son Fils unique. Croyez-moi, il a tout pesé, tout compté. Il n'y avait pas d'autre solution que de donner Jésus-Christ à notre place pour que nous puissions vivre. Une preuve d'amour de notre part et de confiance est d'accepter cette solution qu'il nous a donnée, celle qui a coûté la vie même de son Fils unique. La rejetterons-nous? Réfléchissons et choisissons la vie. Et si nous l'avons choisi, réjouissons-nous de ce qu'il est vivant et de ce qu'il nous prendra bientôt avec lui.